Cette émission vous est offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachsteiner, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5 puisque ça nous honore quand nous vous savons très nombreux sur la 93.5 pour suivre cette émission Club de la Presse. Chaque pays a le droit au respect de ses frontières et de ses lois. Les Togolais qui dépassent la durée de validité de leur visa nuisent aux relations avec l'un de nos partenaires les plus solides ainsi qu'à leur compatriotes dont l'accès aux États-Unis est désormais restreint. Nous allons travailler à surmonter ce défi. C'est la première réaction du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, et face aux mesures de restriction partielle prises par les États-Unis à l'encontre du Togo. Cette décision américaine s'inscrit dans un contexte international tendu où les questions migratoires croisent les enjeux sécuritaires pour le Togo. Il s'agit désormais de redoubler d'efforts pour regagner la confiance du partenaire américain tout en protégeant les droits de ses concitoyens ou de ses citoyens à voyager et à construire leur avenir au-delà des frontières. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la Presse et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité, tel qu'évoqué par des journaux parus ce mercredi. Dans cette émission, nous allons en parler bien sûr dans cette émission Club de la Presse alors de ce mercredi 11 juin 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde, Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne, je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Améro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Bada près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur nos médias ou nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, l'équipe de mercredi se met déjà en place. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, à part tout ce qui ne va pas, le reste ça va.
Le reste ça va, contrairement au mercredi dernier, au moins j'ai senti quand même de l'espoir et ça va aller.
Bon, l'espoir, on fait avec, quoi. On fait avec lorsque vous êtes au Togo. Et déjà, la vie vous mène déjà 1-0. Donc, il faut vous batailler pour égaliser. Ça va si vous pouvez gagner. Donc, voilà, je sais que je suis déjà mené 1-0. Donc, je me bats pour égaliser.
D'accord. L'essentiel
est... Voici, je peux remporter la victoire.
D'accord. Ce qui est sûr, notre souhait est que tu remportes la victoire. Abassi Issaka, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous ceux et à tous celles qui nous suivent en ce moment. Bonjour, confrères en studio également.
Je ne sais pas si toi aussi tu as été mené par la vie à 1-0 déjà.
On est dedans, qu'est-ce qu'on veut faire?
Il faut faire avec. Hein. Ou à ton niveau, c'est plutôt 2-0.
Bon, non, on fait avec, on se débrouille, on se débat.
D'accord.
Tant que Dieu, le Tout-Puissant, nous donne le souffle de vie, il faut le rendre grâce. Et le remercier.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Tout à fait. Il faut toujours remercier le ciel, remercier le Tout-Puissant alors pour ses bienfaits dans notre vie et pour sa grâce, surtout dans notre vie. Je pense que Justin Ali ne va pas me démentir, surtout qu'il est en vie et qu'il est venu également au Club de la Presse. Comme toujours, Justin, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ben, je ne vais pas très bien. J'ai un souci.
Qu'est-ce qui se passe, Justin?
Mon pays va mal. Donc à partir de ce moment-là, moi qui suis togolais, conscient de la situation, ça m'interpelle. Il est bien vrai que je respire. Je suis sur pied ce matin dans vos locaux, mais toujours est-il que ça ne va pas. Et permettez que je revienne également sur ce coup de cœur que j'avais quand même lancé par rapport à la situation de retraités de la société anonyme TDE, Togolaise des Eaux. Ces retraités-là, une centaine, qui sont partis à la retraite et qui, dans leur prévision, les 10% prélevés chaque fin du mois, ont versé, une fois ils sont aujourd'hui à la retraite, au lieu de bénéficier de ce qu'on peut appeler la retraite complémentaire, ils sont là, ils souffrent. Ils font des pieds et des mains au niveau même de la direction nationale, notamment le directeur général, et ça n'allait pas. Le président du conseil également, le président du conseil d'administration, bien sûr. On ne sait pas à quel niveau ça bloque. Mais l'autre information que j'ai encore eue, ou nous avons eue au niveau de notre rédaction, est que ceux-là qui devaient partir pour le compte de cette année 2025 sont partis, mais ils sont également dans le même cas. Alors que ceux-là qui étaient partis dans l'intervalle 2021-2023, c'est à eux, la situation est tellement compliquée aujourd'hui, mais ceux-là également qui sont partis, au lieu de les payer, pour faire face maintenant à la situation qui était là bien avant le départ de ceux-là qui sont partis pour le compte de cette année 2025, ceux-là aussi sont venus maintenant s'ajouter à ceux-là qui n'ont pas eu droit à leur retraite complémentaire. Et cette situation-là, moi, ça me désole parce que, vu l'état de nos grands frères, nos papas qui ont eu à travailler dans cette boîte et qui sont partis à la retraite aujourd'hui, maintenant, ceux qui eux-mêmes, on a prélevé sur leur salaire de base, les 10% prélevés en matière de prévision, au lieu de leur payer, ça pose problème.
Alors que puisque c'est leur droit.
C'est leur droit. Je ne comprends pas. C'est là où je dis que le Togo est malade. Je vis dans un pays où je n'arrive pas à comprendre. Alors que dans les autres structures...
Mais finalement, quelles sont les raisons qui sont données?
Jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. On cherche à prendre attache avec les premiers responsables, mais on n'arrive pas à les joindre. On n'arrive pas à voir de quoi il est question. Vous prenez la quête nationale de sécurité sociale aujourd'hui, le problème ne se pose pas là-bas, puisque pratiquement, c'est les mêmes conditions. Vous prenez le statut de ces agents, le statut personnel de ces agents-là, c'est pratiquement ce qui est écrit au niveau de certaines dispositions, notamment vous prenez l'article 110 de ce statut, tout est mentionné bel et bien. Vous prenez même la CET également, bon, quoi qu'on dise aujourd'hui, le problème ne se pose pas à ce niveau non plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la TDE et l'agent le directeur général qui est là aujourd'hui, fut l'agent même de cette boîte avant de devenir, le directeur général de cette boîte, parce qu'il maîtrise bien la boîte. Et moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Une fois encore, j'étais pas le premier responsable à prendre une décision pour voir le cas de CEDEA parce que beaucoup d'entre eux sont malades. Plusieurs souffrent des pathologies qui nécessitent des moyens pour leur prise en charge. Je pense que sincèrement, il faut venir en aide de ces gens-là.
D'accord. Merci, Justin Nani, pour cette interpellation. Et je pense quand même que c'est rentré justement dans les oreilles, à l'ordre qui de droit, et des mesures seront prises pour que ces retraités soient satisfaits justement par rapport à leurs droits. Gazette Onadi, bonjour.
Pascal, bonjour.
Gazette, je pense que vous allez bien.
Ça va.
Dieu merci. Alors, si vous êtes là, c'est parce que votre journal Santé Éducation, le numéro 819, est dans les kiosques ce matin. Et comme chaque mercredi, nous aimons en parler et nous aimons animer cette chronique. Et là, nous prenons également certains titres alors de votre journal. Et bien sûr, nous allons en débattre ou du moins faire quelques développements alors de ces titres. Premier titre quand même qui nous intéresse bien sûr dans votre journal. La santé, éducation ce matin, c'est justement par rapport au repos. Et vous écrivez repos bienfait sur la santé.
Le repos est défini comme un arrêt d'activité, hein? Un arrêt de mouvement, un arrêt d'activité. Et l'objectif, c'est de récupérer sur le plan physique et mental. Et c'est très important. Vous savez, les pays qui sont bien organisés sur le plan professionnel, il y a le repos. Hein? Il y a le repos. On connaît ce que c'est que le repos. Et le repos au niveau administratif est manifesté par ce qu'on peut appeler les congés. Hein? Les congés. Et pour les travailleurs, c'est les congés. Et quand vous regardez nous ici, nos sociétés, c'est souvent ceux-là qui ont ce genre de repos administratif. Mais la plupart qui qui sont dans le confessionnel, c'est très compliqué. Hein. Je veux dire, dans le secteur informel, c'est très compliqué parce que on vit au jour le jour et on ne peut pas se donner ce plaisir d'observer un repos. On risque de ne pas pouvoir assurer en tout cas le ménage pour cette journée-là.
Et pourtant, ça fait du bien à l'organisme.
Oui, c'est très important. C'est ça la problématique. C'est très important le repos. Le repos, on peut le faire en une journée, on peut le faire en une semaine, en deux semaines, en un mois. Ça dépend du secteur dans lequel on est. Et dans cet article, il y a un expert qui donne des conseils. Comment on peut se reposer? Hein, tout travailleur a besoin de se reposer parce que ce n'est pas un loisir, ce n'est pas seulement réservé pour certaines personnes. Tout le monde qui travaille, à un moment donné, doit se reposer. Les élèves se reposent, ils ont les congés, ils ont les vacances. Alors, tout travailleur doit se reposer. Un article très important, comment bénéficier du repos? Et le repos, comme on l'a dit, c'est un phénomène qui se rejaillit sur la santé, sur la récupération physique et mentale. Beaucoup ne prennent pas le repos, c'est pourquoi ils sont aujourd'hui dépressifs. Alors, ils ont un certain nombre de pathologies. Donc, se reposer aussi, c'est un médicament. Le repos, c'est un médicament qui fait bien, qui fait du bien à la santé.
Justement, et c'est un médicament qui fait du bien à la santé. Et là, je pense quand même que nous sommes appelés à nous reposer aussi après avoir fait de travaux intenses. Il est très important que nous nous reposons. C'est important. Alors, autre article, hein, vous intéressez également à un organe très important lors de notre organisme, bien sûr. Je vais bien parler alors du cœur, qui est même d'ailleurs un organe moteur pour la circulation du sang. Et vous écrivez « Attention à ses ennemis du cœur ». Donc, notre cœur a aussi des ennemis.
Beaucoup d'ennemis. Vous l'avez déjà dit, le cœur au centre de la circulation sanguine. Donc, on a beaucoup parlé de la fonction du rôle du cœur. Vous savez, ces ennemis, on les trouve où? C'est dans l'alimentation. C'est dans l'alimentation. Et quand vous allez au niveau hospitalier, les médecins se plaignent que, on l'a toujours dit ici, pour certaines pathologies pour lesquelles les gens sont arrivés, après des analyses, après des examens, on leur découvre un problème cardiaque. Hein, un problème cardiaque. Donc, c'est au niveau de notre mode de vie, au niveau de notre alimentation. Dans cet article, c'est plus au niveau de l'alimentation. Vous savez, par exemple, et c'est ça qui est, on va classer ce condiment-là à la première place, l'excès du sel. L'excès du sel. On utilise abondamment le sel dans nos ménages. Hein? On met du sel dans plusieurs aliments. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que on dépasse la dose qu'il faut avoir par jour. Hein, l'OMS dit c'est la cuillerée à café par jour. Alors, ça fait quelque chose de 5 grammes. Hein?
Voilà, 5 grammes.
5 grammes. Hein? Et c'est de ça qu'on a besoin par jour. Mais quand on met du sel dans tout ce que nous mangeons, on met excessivement du sel. Surtout les revendeurs et les revendeuses, quand nous allons dans le restaurant au bord de la rue, c'est trop salé. Et le sel en excès, l'organe qui l'attaque le premier, c'est le cœur. Et quand le cœur est pris, c'est les vaisseaux sanguins qui sont pris et on a des problèmes. Et aussi, ce qu'on peut appeler l'alcool. Aujourd'hui, beaucoup d'alcool fraté sur le marché a des doses pas possibles. Hein, à des doses que normalement un être humain ne doit pas boire, mais on a ça en petit sachet, on a ça dans des petites bouteilles, et puis ça pullule sur le marché et les gens prennent. Ça tue le cœur. Donc, dans cet article, nous avons aligné un certain nombre de choses qui se comprennent au niveau de l'alimentation et qui créent des dommages au cœur. Attention, nous avons des ennemis du cœur dans notre alimentation. Prenons garde de l'air. Sortir pour avoir un cœur en bonne santé. Quand le cœur est en bonne santé, on a la santé.
Justement, quand le cœur est en bonne santé, on a de meilleure santé même d'ailleurs, parce que je l'ai dit tout de suite que c'est un organe moteur même d'ailleurs dans la circulation sanguine.
Absolument.
Vous vous intéressez à un autre organe, c'est bien sûr les reins. Les reins, vous nous parlez alors de la défaillance alors de ces reins, et vous écrivez reins défaillants, signe d'alerte.
C'est absolument important, les reins. Aujourd'hui, les maladies rénales, c'est sa pilule, parce que beaucoup de mauvais comportements par rapport à cet organe-là. Les reins aussi constituent cet organe qui filtre le sang, donc qui essaie de débarrasser le sang des déchets, et c'est important de prendre soin des reins. Et ici aussi, ce qui est désigné, c'est au niveau de quoi? De l'alimentation. Quand on a un certain nombre d'alimentation qui n'est pas propice à la santé des reins, on a des problèmes. Hein? Une alimentation, on l'a dit tantôt, trop salée par exemple, cela peut heurter aussi les reins. Alors ici, il faut savoir, quand on est là, il y a des symptômes. Hein? À un niveau de l'affection des reins, on peut sentir des choses. Et nous avons mis un certain nombre de symptômes dedans, mais nous allons prendre au niveau de l'urine. Au niveau de l'urine. Hein? L'urine change. Quand on a un problème rénal, l'urine change. Quand on va uriner, cela mousse beaucoup. Et on urine aussi trop fréquemment. Trop fréquemment. Et des fois même, cette urine peut avoir une odeur qui ne nous plaît pas. Alors, quand on a ce genre de signe, il faut aller consulter. Parce que quand la maladie rénale arrive à un niveau, c'est très difficile de faire un certain nombre de choses, surtout dans nos hôpitaux ici où le plateau technique n'est pas favorable. Donc, instaurons-nous dans la prévention, c'est très important. Connaissons les symptômes des maladies rénales. Dans cet article, c'est ce qui est dit.
D'accord, dans cet article, c'est ce qui est dit. Alors, c'est vrai que quand on regarde la une de votre journal ce matin, ou la personne qui regarde hein, la une du journal ne peut se passer alors de saliver. Et donc, je voudrais quand même qu'on parle alors de ce titre. Vous écrivez « Foufou, revoir les sauces pour éviter les maladies ». Et vous avez à la une, bien sûr, un plat de foufou avec de la bonne sauce et aussi alors de la bonne viande.
Oui, parce que vous savez, j'aimerais quand même remercier un certain nombre d'experts, un certain nombre de spécialistes avec lesquels on travaille aujourd'hui. Santé éducation est arrivée à son niveau de faire un certain nombre de recherches, un certain nombre d'études avec des experts pour ressortir. Vous avez vu que depuis un certain nombre de temps, nous écrivons beaucoup sur nos plats locaux. Nous devons connaître ce que nous consommons, ce que nous affectionnons, ce que nous mangeons très souvent chez nous, à quoi et qu'est-ce que cela nous sert comme nutriment et comment nous devons améliorer cette alimentation, la consommation. Le foufou, ce n'est plus à présenter, on connaît bien ce plat que la plupart des Togolais aiment, mais parce que vous savez, le foufou, en principe, c'est un plat de ceux qui bougent. Hein? À l'origine, le foufou, c'est pour les cultivateurs, ceux qui cultivent l'igname. Et qui font le foufou? Ils font le foufou pour avoir de l'énergie. C'est un plat qui donne de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, c'est pour aller travailler, c'est pour bouger. Alors, ils le font, et puis ils vont au champ, ils travaillent. Ou bien, ils travaillent beaucoup, ils prennent un plat de foufou pour compenser l'énergie qu'ils ont dépensée. Mais en ville, quand nous prenons le foufou qui est pris en ville, cela est source de maladie. Cela est source de maladie parce que dans la plupart des restaurants, quand nous prenons un plat très, très calorifique. Parce que quand on met du foufou et puis on met à l'omé dans les villes, c'est des morceaux de viande. C'est des morceaux de viande. Et la plupart des sauces, il n'y a rien comme légumes dedans. Alors, quand on prend cela et on va s'asseoir derrière son bureau et on ne bouge pas, vous voyez, Pascal, aujourd'hui, le surpoids, 30% de Togolais sont en surpoids, 11% sont en obésité. C'est l'une des causes. Donc, le plat foufou, dans cet article, nous disons quand il faut consommer ce plat, qui doit consommer ce plat, ce que cela donne sur le plan de la santé et comment améliorer déjà même la cuisson des tubercules et puis comment améliorer la sauce ou bien les sauces qui accompagnent ce plat-là. C'est un plat merveilleux, un plat bon, mais tel qu'on le consomme aujourd'hui dans la plupart des cas, surtout en ville. Et aussi, malheureusement, dans certains milieux ruraux, ce n'est pas favorable pour la santé. Un article très important que nous invitons tous ceux qui aiment le foufou à lire.
Justement, un article très important hein, pour surtout ceux qui aiment le foufou à lire. Et bien sûr, c'est dans votre journal Santé Éducation ce matin. Alors, nous terminons avec cet article hein, qui nous intéresse aussi. C'est concernant l'exercice physique. Vous écrivez bien sûr, exercice physique, 10 minutes de marche.
Oui. Vous savez, quand on finit de prendre un plat de foufou, en ville, on doit aller marcher. Après avoir pris le foufou, 15 minutes après, 20 minutes après, il faut marcher 10 minutes. Hein, cela va permettre à ce qu'il y ait une certaine régulation de la glycémie et cela va faire bien, du bien à la santé. L'OMS recommande 30 minutes d'exercice physique par jour. On n'arrive pas à le faire, Pascal. Hein? S'il faut lever la main aujourd'hui, en tout cas dans ce studio, ceux qui font les 30 minutes par jour, on n'en devra pas beaucoup. Hein? Beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire parce que ça devient stressant. Il faut trouver 30 minutes, soit très tôt le matin, soit c'est à midi ou bien le soir pour marcher ou bien pour faire le jogging. C'est compliqué pour beaucoup de gens. Alors, il y a une étude qui est faite qui prouve que ceux qui veulent faire ce test physique peuvent faire 10 minutes par jour. Mais respectez la marche active, 10 minutes par jour et durant la semaine, ça donne une bonne accumulation et qui se rejaillit sur la santé. Un article très important, marchons, c'est aussi un médicament. Aujourd'hui, la marche, c'est un médicament. La marche, c'est un remède naturel. La marche permet de traiter plusieurs pathologies. La marche, c'est un phénomène qu'on doit aimer. C'est comme on mange, c'est comme on travaille. On doit aussi marcher pour notre santé.
Pour notre santé, vous l'avez si bien dit au début que le repos est un médicament et donc la marche aussi est un médicament.
Absolument.
Donc, c'est un médicament naturel.
Naturel.
Voilà, chez nous, que nous pouvons
utiliser. Qu'on ne va pas aller acheter,
justement.
Il ne faut même pas une prescription,
justement, donc que médical. Nous pouvons utiliser à tout moment.
À tout moment.
Merci beaucoup, Gadiel Tonladi. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci à vous
Ça
aussi.
Fait plaisir. Et votre journal pour la voix, quelles sont les conditions?
Le journal numérique à TGL sur le site internet www.santéeducation.tgl. Le journal papier sur abonnement à 96 14 97 97.
Merci beaucoup, Gadiel Tonladi, d'être passé hein, dans cette émission et vous passez une bonne journée.
Merci.
Et voilà, et nous invitons les uns les autres à aller acheter le journal Santé Éducation pour retrouver tous ces titres dont nous avons parlé tout de suite. Nous abordons notre premier sujet hein, pour ce qui concerne le débat en studio. C'est vrai que depuis hier, il y a le BPC qui a commencé. C'est vrai, depuis quelques jours, même d'ailleurs, les examens hein, ont commencé dans notre pays. Il y a le journal Le Messager qui titre, bien sûr, sur le sujet hein, ce matin. Togo BPC 2025, 155 944 candidats composent depuis hier. Appoint Kossi Marcel, 13 ans, le plus jeune candidat. Appoint Kossi Vi, 58 ans, le candidat le plus âgé. Alors, voilà, entre 13 ans et 58 ans, on pourra dire quand même qu'il y a un grand fossé, Sylvestre, mais on ne peut quand même dire félicitations à notre grand frère quand même qui passe son BPC.
Oui, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, notre grand frère, on peut dire notre papa. Parce que 58 ans, je crois qu'il pourra mettre au monde certains ici dans ce studio. Et Pascal, tu me regardes, je te parle pas de toi. Oui, je sais que tu as mis...
Moi, c'est tellement toi. Il a une manière...
Donc, c'est Carita, c'est vraiment bravo, donc, au papa et à notre grand frère qui a quand même pris ce courage-là, donc, de composer le BPC. C'est, peut-être qu'il en a besoin pour son service, tout, donc, c'est le temps, quoi. Moi, je crois que c'est le courage, c'est ce courage-là. Donc de repasser le BPC, peut-être qu'il n'avait pas eu du temps matériel pour le faire quand il était encore jeune et tout, maintenant où le besoin s'est fait sentir. Donc il allait donc décrocher concourir donc pour ce diplôme-là. Donc je prie quand même qu'il puisse décrocher ce BPC-là. Maintenant, pour notre enfant de 13 ans. Oui, bon, voilà quoi. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont surdoués aussi. Maintenant, si on fouille bien, je crois que peut-être qu'il aurait fait candidat libre pour. Ou il aurait sauté certaines classes, parce que sinon, c'est pas. À 13 ans, si on suit le cursus.
C'est pas évident.
Normal, c'est pas évident qu'il soit donc là à 13 ans. Donc peut-être que c'est un jeune craque, et puis bon. Peut-être au CM1, il a dû peut-être passer le CPD, ouais, pour éviter donc de faire encore le CM2 et tout ça. Donc,
mais c'est déjà en classe de 3e, il doit passer 10 ans.
10 ans, voilà. 10 ans, donc voilà. Bon, lui aussi, bon courage. Et puis bon, j'espère que déjà à 13 ans, il est il passe le BPC. Je me dis que c'est déjà un jeune surdoué, donc vivement qu'il décroche son BPC maintenant. Je crois que ça alimente beaucoup de polémiques depuis hier. Certains estiment que non, il faut laisser les enfants tôt au bas âge et déjà commencer l'école et tout, parce que ici, et le cursus normal, c'est le supérieur, c'est à 5 ans. Voyez-vous, on estime que vous avez fait donc les cours maternelle 1, 2. Tu as 3 ans maternelle 1 et 2, donc tu as 5 ans. Donc à 5 ans, tu commences donc le CP1. Et donc, lorsqu'on voit le cursus et tout, donc certains arrivent à avoir le bac avec 17 ans, 16 et 17 ans et tout. 16 et 17 ans. Donc, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui le font, et donc peut-être avec son master à 23 ans. Certains ont leur master déjà à 23 ans, avec 4 ans, ils ont déjà leur master. C'est bien, c'est tout cela est bien beau. Maintenant, il faudrait également qu'il y ait une bourse d'eau de maturité, parce qu'il y a certains qui décrochent le master déjà à 23 ans, mais n'ont pas véritablement l'étoffe nécessaire pour être dans une administration. Voyez-vous, parce que pour être dans une administration, il faudrait aussi également avoir une bourse d'eau de maturité. Généralement, je plaisantais avec quelqu'un. Lorsqu'on échangeait, il a dit, voilà, quoi, ce sont quand même ces enfants-là qui font fuiter donc les documents officiels sur les réseaux sociaux. Bon, je plaisantais, quoi, en disant que, voilà, quoi, ils n'ont pas encore le secret professionnel et tout ça et tout ça. Mais bon, voilà, quand l'enfant craque, bon, voilà, quoi. Là, on ne peut rien, quoi. C'est également son essence, c'est son être. Et donc, bon, voilà, quoi. Ça dépend donc de chaque parent de le faire. Je crois qu'il y a... un moment, je crois que c'est à l'époque du ministre Solitoki qui imposait véritablement qu'il faudrait qu'on ait 5 ans avant de commencer donc le CP1 et donc 10 ans ou avant de passer le CPD.
Mais je pense qu'avec le ministre Kokoloko, c'est aussi il y a cette exigence.
Oui, je crois que ça s'est beaucoup accentué au temps du ministre Solitoki.
Voilà.
Si bien que les enfants qui avaient moins de 10 ans à l'époque et tout ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais lui, il était véritablement intransigeant là-dessus. 5 ans, CP1, 10 ans, et avant donc de passer le CPD. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement y tient encore à ces fourchettes-là. 5 ans, CP1, 10 ans, CM2, et puis donc CPD. Mais bon, voilà quoi. Si ce n'est pas le cas, bon, si certains jeunes veulent avoir donc le CPD à 8 ans. Bon, voilà, je ne trouve pas d'inconvénient, ça dépend donc des parents. Mais je veux véritablement que, quand on a un diplôme, et que qu'on ait quand même toutes les capacités, pas uniquement intellectuelles, mais il faudrait également avoir une bourse d'eau de maturité, parce que tu seras dans une administration, et quand le directeur te gronde, c'est pas à 23 ans, on n'ira pas peut-être dans les WC pour pleurer. Voyez-vous? Quand on te gronde, donc ça veut dire que dans un service, il y a toutes les pressions possibles. C'est pas peut-être un jeune de 21 ans qui commence, donc les services, on lui gronde et puis le soir, on apprend qu'il s'est pendu. Voilà, donc il faudrait également avoir la maturité nécessaire pour supporter toutes ces pressions-là, donc du monde du travail et tout. Donc voilà. Quoi.
D'accord. C'est quand vous parlez de maturité, je pense quand même qu'il y a la responsabilité également qui y compris. C'est vrai que déjà tout au long de l'année scolaire, nous n'avons écouté rien comme incident. Et même d'ailleurs, quand on prend ces examens qui commencent, il y a les autorités éducatives qui vont dans les salles pour constater l'effectivité de ces examens. Et, même hier, il y a encore certaines autorités quand même qui sont parties dans les grandes régions du pays pour constater l'effectivité alors de ces examens. Ça dénote quand même que l'année scolaire tire vers sa fin avec tout l'apaisement possible. Hein.
Oui, on est à la fin de l'année scolaire, puisque après le BPC, on attend de voir le bac de...
Le CPD,
bac
qui suit la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Le bac suit directement le CPD. Donc, je pense que...
c'est à partir du 17.
Tout se passe bien, tout s'est bien passé même au cours de cette année. Ce n'est pas même cette année seulement. Je pense qu'il y a plus de 3 ou 4 ans comme ça, les années se déroulent dans de bonnes conditions. Surtout avec la rigueur imposée par le professeur Kokoroko, le ministre de l'enseignement supérieur primaire et secondaire. Et ça fait que tout est rentré dans l'ordre. On n'a plus connu de mouvement au niveau des enseignants, ni de mouvement même au niveau des élèves qui réclamaient quoi que ce soit. Je pense que tout s'est bien passé. Et on espère que cette année également, tout se passe bien. Que les examens se terminent dans de bonnes conditions et que tout ce que les parents espèrent, c'est la réussite de leurs enfants. Ils ne peuvent pas investir. Et après, les enfants vont échouer. Donc, je pense qu'il faudrait, avec les réformes même aussi, également, qui sont enregistrées au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, et avec le nouveau système APA, approche par compétences, j'ai l'impression que les enfants sont en train de mieux cerner certaines situations et lorsque c'est tout comme on leur fait la pratique là, APC, approche par compétences. Donc quand ce qui est de notre frère qui a 58 ans qui va au CPD et au BPC, c'est tellement qu'il a eu son CPD quelques années plus tôt et il veut avoir le CPD. Et c'est des gens qui veulent se débrouiller. Quand vous allez le voir, c'est pas qu'il est resté sur le banc de l'école avec les enfants. C'est quelqu'un qui a suivi, certainement des cours du soir pour s'améliorer. Et il s'est présenté en candidat libre. Et à lui également, on souhaite une bonne chance. Et parce qu'il cherche quelque chose, il a un objectif. C'est pour cela qu'il veut obtenir ce diplôme. On a vu même dans les pays européens des femmes de 79, 90 ans aller chercher aussi de crocher le bac 2. Par rapport à notre fils, 13 ans, lorsqu'on prend un cursus scolaire et qu'on avait dit vous commencez à 5 ans, déjà on passe 3 ans. Quand vous avez 2 ans ou 3 ans, on vous met... à la maternelle 1, et vous évoluez à la maternelle 2, jusqu'à ce que vous soyez au niveau de choses. Même quand vous avez 4 ans, vous ne pouvez pas faire le CP1. Donc, à partir de 5 ans, vous commencez. Et vous avez un cursus à suivre de 6 ans. Et à 10 ans, vous passez. C'est pour cela qu'il y avait cette imposition que même un enfant qui a 9 ans ne peut pas passer le CPD. Aujourd'hui, avec l'évolution de cet enfant qui a 13 ans, c'est tellement qu'il a fait le CP1, c'est-à-dire qu'il a fait le CP une année, il a fait le CE une année, et il a fait le CM une année avant d'aller avoir le CPD.
Mais est-ce que cela n'aura pas vraiment de répercussions sur lui, sur son cursus par après?
C'est ce que Sylvestre disait tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas de faire des têtes pleines. Mais il faut avoir des têtes bien faites, des têtes qui sont plus responsables lorsqu'ils auront les diplômes. Des têtes bien faites. Lorsqu'on les placera quelque part, la personne est responsable. Donc ici, avec le fait qu'on saute les classes aux enfants, est-ce que c'est la bonne manière au lieu de faire suivre le jeune? Je ne sais pas si on a ramolli cette condition et que cet enfant-là s'est retrouvé à 13 ans au niveau de BPC. Si on a ramolli cette condition, ou bien on a oublié ce qui était prévu, la décision qui était prise, que les enfants doivent aller au CPD à l'âge de 10 ans, et qu'aujourd'hui on retrouve un enfant. À quel âge il a eu son CPD? Ce qui veut dire que peut-être que c'est à l'âge de 5 ans ou bien c'est à l'âge de 6 ans qu'il a eu son CPD. Il a continué 3 ans pour aller faire son truc de BPC. Donc on doit savoir comment les choses sont passées, peut-être au niveau de son établissement, comment les choses sont passées.
D'accord.
Ou au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, comment ça s'est passé avant que cet enfant-là ait sauté des classes ou bien ait évolué jusqu'à arriver à ce niveau de...
Merci beaucoup Abbas. Mais Justin, c'est vrai que oui, il faut un apaisement au cours alors du cursus scolaire ou de l'année scolaire, j'allais dire. Il faut également que les examens se déroulent alors dans un climat alors de paix. Mais au-delà de tout, il faudrait quand même que l'élève qui sortira même d'ailleurs de ces examens soit compétent pour mieux servir aussi la nation.
Oui, tout à fait, parce que c'est l'idéal. Généralement, lorsqu'on va à l'école, dans les registres anglo-saxons, on cherche à avoir les diplômes pour valoriser de quoi on est capable après. Maintenant, l'essentiel, une fois avoir ces diplômes-là, c'est d'être compétent et d'être serviable par rapport à ce pourquoi vous êtes formé. Je pense que c'est l'idéal. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont fréquenté, qui ont leur diplôme aujourd'hui. Mais quand vous les interrogez ou bien vous leur confiez donc un travail à faire qui est dans leur domaine, on trouve toujours à dire. Bon, c'est pas un cas quand même général, mais ça s'observe un peu partout. Donc lorsqu'on parle de notre frère là qui a 58 ans, qui passe son BPC cette année, moi je dirais que c'est pas anodin. Vous allez dans les pays sahéliens, puisqu'il y a des cours d'alphabétisation qui se donnent. Donc les gens se mobilisent, que ce soit au Burkina, j'en ai vu, que ce soit au Niger, les gens se bousculent, même à un âge avancé, ils passent leurs examens sans pourtant s'inquiéter. Parce qu'ils travaillent, certains vont au marché, le soir ils vont à l'école. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici au Togo. Bon, et je vois que c'est ces derniers temps, ces dernières années qu'on en observe dans certains quartiers de la capitale, mais à l'intérieur, pas ça. Bon, quelqu'un qui a le courage de chercher à avoir son diplôme, à tout moment, je pense qu'il peut, il peut en avoir, hein. Vous allez aux États-Unis, les gens ont jusqu'à 80 ans, mais ils ne continuent pas à faire les études. Donc ça voudrait dire que les gens veulent maintenant se cultiver et maîtriser comment est-ce que le monde fonctionne. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne notre enfant, je dirais, 13 ans pour passer le BPC, et je pense que son cas n'est pas isolé. Beaucoup sont passés par là également. Quand vous parlez tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit lorsque je scrutais entre-temps ou bien il y a quelques années peut-être plus tôt le quissus de M. Tavio Amorin, père à son âme, je ne sais pas par quel archimie son nom m'est arrivé ce matin, le premier secrétaire national du Parti Socialiste Panafricain PSP, Tavio Amorin, qu'on a assassiné. Et déjà à 4 ans, à 3 ans, 3 ans et demi, il a commencé ses études. Et brillamment, il a réussi son bac CDAE. Informaticien de renom, il a encore fait d'autres formations telles que même les études juridiques. Mais jamais, il n'a jamais montré et son caractère fainéantisme, si vous me permettez l'expression. Donc c'est quelqu'un qui a tellement la tête pleine donc, de connaissances et ça ne lui est pas empêché. Donc de se passer par là. Donc c'est pour vous dire que dans plusieurs domaines, beaucoup sont passés par là. Je connais même des économistes qui, déjà à 13 ans dont vous parlez là, ou à 14 ans, 13 ans et demi, ils ont eu leur BPC, ils ont continué, ils ont décroché leur diplôme, brillamment d'ailleurs. Donc, il y a des gens qui sont nés, clac, ils sont nés intelligents, donc on ne peut pas les empêcher. Maintenant, si des dispositions chez nous au Togo empêchent à ce que des enfants déjà à 4 ans, ils ne peuvent pas commencer le cours préparatoire première année, ou avoir peut-être ne peut pas passer le CPD, et certificat de première étude peut-être à 10 ans ou il faut avoir forcément à 10 ans à 9 ans, ça c'est pas possible parce que certains ont été pénalisés entre temps. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. Chacun est né dans son domaine, chacun est né avec tout ce que Dieu lui donne comme potentialité,
Et je conclue en disant tout simplement bonne chance à tous les candidats dans les divers examens qui sont en train de passer en ce moment.
Merci beaucoup, Justin. Oui, mais nous allons nous transporter au nord du pays pour parler sécurité maintenant. Et sécurité, il y a l'armée qui a annoncé tout récemment, dans cette semaine bien sûr, par rapport au terrorisme. Il y a le journal Le Messager qui revient sur cette question à l'ordre du terrorisme. Et le journal écrit « Nord du Togo, plusieurs terroristes neutralisés, vibrant hommage au FDS ». Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est La Manchette. Sylvestre, vous écrivez sur le sujet « Riposte, armée, Pepa Kandi, le vaillant ». Et là, c'est par rapport surtout au fait que l'armée a neutralisé beaucoup de terroristes. Et là, on ne peut quand même qu'applaudir cela et féliciter nos forces de défense et de sécurité.
Oui, mais je voulais nuancer quelque chose. C'est pas l'armée qui a annoncé. Puisque l'armée togolaise est une institution.
Tout à fait, c'est une nuit.
Jamais ils n'ont communiqué sur ce qui s'est passé. Mais il y a une vidéo qui a fuité, qui circule sur les réseaux sociaux et qui a permis. Peut-être que c'est un élément donc, des FDS qui a filmé. Bon, peut-être qu'il a balancé à un ami et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc nous avons constaté donc, que le dimanche dernier, jour de la Pentecôte, ces autres hommes-là voulaient encore en deuil le Togo. Ils sont venus donc en grand nombre pour attaquer donc une localité qu'on connaît très bien, Pepa Kandi. Puisque quand souvent on parle de Pepa Kandi, on se rappelle que de plusieurs forces éléments donc des FDS sont tombés là. Surtout par le fait donc de cet héros. Et donc la dernière fois ils sont encore revenus. Vous savez, le criminel revient souvent sur son lieu de crime. Ils sont encore revenus et puis bon, malheureusement pour eux que l'armée togolaise donc les attendait de pied ferme. Et donc ils ont été neutralisés. On a vu les corps sans vie donc de ces terreaux là. Quand je parle de terreaux, j'espère que tout le monde me comprend. Donc ils ont été neutralisés. Ils ont laissé des engins roulants, des motos et tout. On a pris. L'armée a pris beaucoup donc d'armes lorsqu'on voit tout ça là, on se demande mais ces gens là qui les fournissent en réalité, parce que lorsqu'on vend même des lance-roquettes et tout ça, mais je me pose mille et une questions. Où est-ce qu'ils trouvent tout cela? Bon, peut-être que en faisant aussi des attaques ils partent également avec le matériel de s'ils arrivent donc à gagner la bataille, ils partent également avec le matériel donc des victimes et tout. Donc voilà, ils sont arrivés la dernière fois. Mais ils ont subi donc un feu nourri. Et dans l'élément, il y a même un élément des forces de défense qui disait même que cette fois-ci, on les a matés. Donc, je crois que ils sont restés également dans une vigilance accrue. Parce que cette fois-ci, ceux-là, ils vont encore revenir. Parce qu'ils sont revenus une fois, ils ont fait des victimes. Deux fois, ils ont subi des échecs. Donc, il tentera encore une autre infiltration. Mais comme le président de la République, d'alors, Fonia Singbe, disait qu'il ne faudrait pas leur laisser donc, un centimètre carré. Donc, je crois que l'armée togolaise est préparée donc, à toutes les éventualités. Et donc, une fois, ils reviendront. Une fois, ils subiront donc, des échecs. Et c'est ce que nous souhaitons pour que nos compatriotes qui vivent là puissent avoir la paix du cœur. J'ai suivi dans la semaine une vidéo d'un de nos compatriotes qui ma foi après la vidéo j'ai la chair de poule, parce qu'il nous dit que s'il se lève un matin, bon, il n'est pas sûr donc d'être en vie jusqu'au soir, parce que tu peux tomber sur une mine et tout ça, que c'est vraiment sérieux ce qui se passe au nord du pays. Il a fait une vidéo, il demandait même aux influenceurs donc de revenir très souvent sur le cadre de la savane pour que cela puisse véritablement donc amener l'opinion internationale pour aider le Togo. Donc pour l'instant on s'en remet aux éléments donc des forces de défense et de sécurité du Togo pour que ces autres hommes là ne puissent pas véritablement s'implanter sur le territoire togolais, parce que depuis la première attaque que nous avons subie en 2021 à Salouanga, je crois qu'ils tentent très souvent des infiltrations, ils viennent et repartent. ils n'ont pas pu, comme on le voit au Burkina, où ils sont sur le territoire, ici ils viennent, ils subissent des échecs et ils repartent. Donc on espère que on se rende à cette configuration jusqu'à ce que peut-être un beau matin qu'on ait pu ces autres hommes là sur ce territoire.
Oui, mais c'est vrai que le gouvernement a décidé quand même de ne pas communiquer sur les prouesses ou même d'ailleurs les défaites et tout, alors des forces de défense et de sécurité hein, sur le terrain. Et ça a été quand même une stratégie de communication. Mais au-delà de tout, il y a des prouesses quand même à saluer, comme cette prouesse.
Oui, c'est une prouesse à saluer. Si le gouvernement a décidé de ne pas conduire, le gouvernement avait dit, donné la latitude au chef d'État, et j'ai dit aux forces de défense et de sécurité, à l'état-major des forces armées, togolaises, de communiquer s'il y a lieu de le faire. Et vous savez que au niveau des forces de défense et de sécurité, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Donc, dans ces conditions, aujourd'hui, il faut saluer l'intervention de ces forces de sécurité et de défense. Vous savez que une attaque a eu lieu il n'y a pas quelques jours avant au Bénin, où il y a eu des morts, huit policiers, huit forces de défense et de sécurité qui sont morts, et c'est quelques temps après, quelques jours après, qui sont venus à Kupakandi aussi pour attaquer. Heureusement que nos FDS étaient là et qu'ils ne voulaient laisser aucun terrain. Je pense que c'est le travail qu'il faut faire maintenant. Entre-temps, il y avait une organisation qui était montée lorsque on avait regroupé les éléments, les FDS du Ghana, du Burkina Faso, je crois,
de la Côte d'Ivoire.
Et de la Côte d'Ivoire, pour faire un front, pour que ces terroristes-là ne puissent plus franchir ces frontières. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été un peu relâché. On ne parle plus de ça. C'est pour cela que je parle d'une extension qui est là. Il y a une menace d'extension de ces terroristes-là sur le terrain. Lorsque vous prenez notre journal aujourd'hui, nous avons fait cette analyse-là, qu'on ne peut pas s'arrêter là à ce régime pour dire, parce qu'il y a certaines régions du pays qui peuvent être attaquées. Je donne un exemple même qui s'est passé la semaine passée. Qui sait s'ils ne sont pas dans la région maritime ici. La dernière fois, à Thiévier, au quartier Gbelenvier, ils ont attaqué. Les gens ont tiré sur des populations. Ils ont tué deux personnes et blessé beaucoup d'autres. Mais ils sont évaporés dans la nature. On ne sait pas.
Et ce sont des terroristes?
Non, ça peut être aussi des bandits armés.
Oui. Mais ça peut être bandits armés. Qu'est-ce qu'on appelle bandits armés? Qu'est-ce qu'on appelle terroristes? C'est pour terroriser les gens. C'est pour terroriser les gens. Et tout ça, ça se passe dans une situation où, dans un coin où les gens ont acheté des terrains, des hectares de terrain, il y a beaucoup d'arbres là-bas, de forêts, où ces bandits-là se cachent pour attaquer. Donc, je pense que il faut prendre conscience et faire de telle sorte que ce qui se passe là ne puisse s'étendre dans toute l'Afrique. C'est pour cela que j'ai rappelé cette force coalition qu'on devait faire, si on peut la réhabiliter pour que au niveau de nos frontières on ait des forces communes pour défendre contre ces terroristes-là.
Merci Abbas, oui, je sais. Mais est-ce que, je sais, vous comprenez le fait qu'aujourd'hui, quand on prend la sous-région CDAO, oui, on ne va pas aller jusque sur le continent pour parler de l'Union africaine, mais on tarde toujours à avoir une force commune pour lutter contre même d'ailleurs ces gens-là qui sèment la terreur au sein des populations.
Moi, je pense que c'est une question de la volonté politique au niveau de ces États-là. Puisque dans les années antérieures, on en a vu la force Ecomog, qui a intervenu
au Libéria
dans la crise libérienne et sierra-léonaise, dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette force-là n'existe plus aujourd'hui, je ne saurais le dire. C'est ce qui a même provoqué le mécontentement de ces pays de la AES. Pourquoi nous sommes attaqués et vous ne cherchez pas à nous venir en aide? Et que vous trouvez des occasions maintenant pour nous sanctionner et voir nous demander d'aller remettre le pouvoir au civil, alors que notre problème est un problème purement militaire. C'est un problème qui est sérieux. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Kwekpa Kandi le dimanche dernier, je dirais que c'est une véritable communication que le régime en place a eu à faire. Parce que depuis toujours, on nous a interdit de ne pas en parler. Et on interdisait également à ces éléments-là de deux côtés de ne pas faire fuiter des informations dans cette zone-là. Et dans les dernières périodes d'aujourd'hui, nous avons eu vent comme quoi il y a eu tellement d'effections au niveau de l'armée togolaise. Maintenant, si à un moment donné, les terroristes ont attaqué de l'autre côté du Bénin, ont fait tellement de dégâts, plus de 70 militaires béninois tués là-bas, avec l'accusation qui en est suivie également du côté du Niger, comme quoi le Bénin est complice de tout ce qui arrive à ce pays, et tantôt c'est le même Bénin qui est attaqué, et que le dimanche dernier, les mêmes terroristes cherchent maintenant à faire incursion sur le sol togolais, que par après, ils ont été neutralisés avec la manière, les images circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que si cette période coïncidait avec ce qui se passe au Togo, peut-être 72 heures après, avec l'appel qui est lancé à l'endroit des militaires pour venir en aide à la population, et qu'au même moment, les mêmes militaires ont réussi à neutraliser les terroristes, ce qui voudrait dire tout simplement que vous qui êtes sur le front, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, continuez à faire le boulot, vous ne serez pas remercié à monnaie de singe. Ce jour est-il que vous êtes là pour protéger un pouvoir qui est là, les officiers supérieurs déjà ont eu à faire l'allégeance. C'est toute une communication qui est autour. Donc moi, j'ai analysé le problème sur plusieurs angles. Maintenant, entre le terrorisme et ce que vivent les Togolais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes Togolais qui donnent les informations, parce que vous n'êtes pas ne plus sans savoir qu'on a eu vent, comme quoi ce sont les Togolais de l'autre côté, mais là, qui vendaient du carburant frélaté aux terroristes, qui communiquaient avec les terroristes, qui renvoient même le questionnement sur le problème. Maintenant, si aujourd'hui, ce problème-là arrive peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer demain, les terroristes, on le connaît. Ce que le groupe Ndim de l'autre côté est en train de poser au Mali, au Niger, on a des informations. Donc, je dis bravo au corps habillé, parce que après tout, c'est la patrie. Il faut défendre la patrie. Et défendre la patrie, ça suppose également que lorsque la patrie est en danger, il faut venir en aide également à cette patrie-là.
Justement. Alors, oui, c'est parce que c'est vrai que cet état alors de sécurité ou d'insécurité, j'allais dire, constitue même d'ailleurs un risque pour nous, risque à l'égard surtout alors des États-Unis. On sait la décision tout récente alors de Donald Trump et le président américain concernant les voyages ou les voyageurs vers du Togo vers les États-Unis où il y a une restriction partielle même d'ailleurs de ces voyageurs à l'endroit, enfin, pour aller vers les États-Unis. Mais il y a le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a réagi rapidement à cette décision alors de Donald Trump. Et je lisais même d'ailleurs cette décision, cette réaction alors du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères qui dit « Chaque pays a le droit au respect de ses frontières et de ses lois. » Les Togolais qui dépassent la durée de validité de leur visa nuisent aux relations avec l'un de nos partenaires les plus solides ainsi qu'à leurs compatriotes dont l'accès aux États-Unis est désormais restreint. Nous allons travailler à surmonter ce défi. Est-ce qu'on ne voit pas un certain mea culpa au niveau alors du ministre à travers sa réaction, Sylvestre?
Non, je crois que diplomatiquement, le ministre est dans son rôle. Le ministre est dans son rôle parce que le fait qu'il a souligné, c'est un fait avéré. Chacun a donc sa manière d'immigrer, de rester aux États-Unis. Ça, on ne va pas quand même se le cacher. Les gens, ils vont donc en visa touristique, tourisme, tout ça, affaires et tout. Et après, c'est une manière donc de rester après sur le territoire, au-delà donc de leur visa. Donc, il se peut que les États-Unis ont fait le constat qu'au niveau donc des ressortissants togolais, ils viennent souvent par le biais de ces visas là et ils ne retournent plus dans leur pays. Et donc à un moment donné, ils ont décidé donc une restriction partielle parce que aujourd'hui les binationaux togolais, lorsque vous prenez peut-être un passeport français, ce n'est pas parce que vous êtes aussi togolais que vous ne pouvez pas. Vous pouvez avec un passeport français. Voilà, vous pouvez avec un passeport d'un pays qui n'est pas concerné, en fait. Si vous êtes les Togolais, bon, vous avez et la double nationalité. Donc, il y a d'autres aussi, hein, d'autres aussi, comme les, ceux qui ont travaillé hein, comme employés hein, sur l'administration américaine et tout ça, les enfants des couples, les bébés adoptés et tout ça, peuvent véritablement se rendre encore aux États-Unis. Mais il y a un certain nombre de visas hein, qui, aujourd'hui, les visas études, affaires et tout ça, là, aujourd'hui, c'est suspendu. Donc, bon, on espère que hein, d'ici peut-être quelques années, on va lever quand même cette restriction-là. Mais ça viendra toujours dans le pays.
D'accord, ça viendra toujours. C'est vrai que, Abbas, il y a Shannon Richie, qui est la directrice des affaires publiques en l'ambassade d'Amérique à Lomé, qui a donné plus d'explications hein, ou donné des raisons de cette restriction partielle de la délivrance de certains types alors de visa au Togolais. La directrice des affaires publiques à l'ambassade d'Amérique à Lomé a expliqué que le Togo est classé dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire sur la liste des pays présentant une haute menace à la sécurité nationale et publique en raison du taux élevé de dépassement de séjour constaté parmi certains détenteurs hein, togolais de visa. Et la directrice dit que ces individus enfreignent la loi américaine en ne respectant pas la réglementation sur le visa. Et c'est ce qu'elle a déclaré hein, ce matin, bien sûr, sur une radio de la place. Et donc tout cela apporte quand même de l'eau au moulin de la réaction alors du ministre Robert Dussey.
C'est ce que Sylvain disait tout à l'heure. C'est-à-dire, le ministre même, je pense qu'elle a vu même la réaction du ministre Robert Dussey avant de faire, parce que les visas qui sont concernés aujourd'hui, on parle de visa voyage d'affaires, tourisme et soins médicaux. Et puis, les visas étudiants stagiaires, programmes d'échange culturel ou académique, et tous les visas d'immigration. Donc, ce sont ces visas-là, les gens ont ça lorsqu'ils finissent de faire leurs affaires. Et lorsqu'ils finissent aussi d'étudier, ils préfèrent continuer à résider là, sans les papiers. Vous savez que depuis quelque temps, depuis l'arrivée de Trump, il a voulu changer des choses. Pour lui, c'est l'Amérique aux Américains. Et ceux-là qui sont là, qui n'ont pas de papiers, il va les faire partir. Et c'est ce qui a commencé par rapport à la suspension de ces visas-là. Et il a donné même les explications sur les visas qui sont accordés. Mais pour ceux-là qui vont étudier, ceux-là qui vont faire leurs affaires, il y a problème, c'est eux qui refusent, qui dépassent les délais des visas qu'on leur a accordés et ils éprouvent des difficultés encore pour les renouveler. Donc tout ça, là, c'est des problèmes qui se posent et comme l'a dit le ministre, c'est que les choses sont en train de se faire, les négociations sont en train de se faire pour que d'accord. notre partenaire ne puisse pas d'accord. laisser tomber.
Oui, mais je sais, peut-être que le Togo a réglé d'une manière diplomatique la chose, mais quand on prend peut-être un pays comme le Tchad, c'est que la réaction a été spontanée, c'est-à-dire on met également la même restriction face aux voyageurs des États-Unis vers le Tchad. Est-ce que finalement, on pourrait apprécier quand même le Togo sur sa manière de régler cela d'une manière diplomatique.
Bon, c'est M. Robert Dussey qui est à la diplomatie. Donc, il a jugé bon d'aller par voie diplomatique pour régler ce problème.
Encore que les États-Unis sont leurs partenaires.
Ah oui.
Il y a cet élément-là.
On parle de partenaires solides.
Solides, voilà. Donc, qu'il a évoqué. Mais moi, je pense que c'est un fait qui n'est pas nouveau. Puisque lors du premier mandat de Donald Trump, certains pays ont été également touché par ces mesures. Sauf que le Togo, dans le temps, n'en faisait pas partie. Bon, on a évolué progressivement et qu'aujourd'hui, il a établi que certains pays, certaines nations constituent de véritables difficultés pour les États-Unis. Et parmi ces pays-là, sur la base de tout ce qui est énuméré, relaté tout à l'heure par le confrère Abbas, et le Togo dépasse certaines dimensions et qui, à mon sens, est mal comprise. Parce qu'on ne peut pas imaginer que sur la base d'un pourcentage, on parle de 39%, on parle de 19%, les chiffres vraiment qui...
C'est-à-dire selon le dernier rapport
oui. Qui a été fourni par M. Donald Trump. Mais au même moment, quand vous analysez, bien avant cette prise de position, le département américain a pris position sur le Togo, notamment sur des volets politiques, et notamment sur le volet économique, le MCC. Nous n'oublions pas. Ça vous a dit que le Togo était déjà sur la viseur. Et les enquêtes ont montré également que les jeunes cherchent à quitter le pays. Mais c'est là où je reviens pour demander au ministre pourquoi ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi les jeunes cherchent maintenant à quitter le pays. Si les jeunes demandent ou demandent à avoir le visa, ils ont le visa, ils font les études aux États-Unis, ils terminent les études, ils refusent maintenant de regagner au pays pour servir leur nation. Mais il faut aller chercher à comprendre pourquoi ces hommes d'affaires-là, une fois se retrouvés aux États-Unis, ne cherchent plus à rentrer au pays. Je pense que c'est à partir de ce moment-là. Mais lorsque le pays n'arrive pas à rassurer, lorsque le pays confirme au jour le jour que c'est un pays de dictature, la liberté d'expression n'y est pas. On arrête les gens, les détenus politiques sont là. On demande même à les libérer, on refuse. Mais les rapports des États, des nations ont énuméré bel et bien qu'il y a des détenus politiques. Il faut les libérer et que les premiers dirigeants de ce pays la refusent progressivement. Nous nous sommes mis dans la gueule du loup, puisqu'on ne peut pas comparer aujourd'hui le Togo par rapport à ces pays-là en matière de terrorisme. Et c'est la question également que se pose également la République du Congo de l'autre côté. Maintenant, c'est le Togo les dirigeants du Togo qui ont compliqué aujourd'hui la situation des Togolais. Non seulement en ne pas bien gouverner et ouvrant la voie à ces jeunes-là de quitter le pays, mais au même moment de ne pas avoir la volonté d'inscrire le Togo sur la voie de la démocratie.
D'accord, merci Justin. Oui, mais c'est vrai que sur ce point, le point évoqué par Justin tout de suite, vous titrez que Fort et la jeunesse divorce consommé. Et vous revenez également sur les manifestations alors du 6 juin 2025. Vous écrivez chronique de l'échec, 6 juin 2025, chronique de l'échec du régime 20 ans. Et vous écrivez aussi déclaration des politiques et des acteurs de la société civile, et vous citez justement cette déclaration ou un extrait de cette déclaration. Vous écrivez: ce 6 juin 2025 restera mémorable et le signe annonciateur d'une indignation longtemps contenue. Et vous continuez toujours en écrivant: s'unir malgré tout, belle leçon des influenceurs à l'opposition.
Je fais ramasser rapidement.
Tout à fait,
rapidement. Non, écoutez, le divorce, lorsque vous voyez la tranche d'âge de ces jeunes-là, le 6 juin, je vois certains qui disent que non, que le mouvement a fait flop. Là, je me pose mille et une questions parce que je me dis, des jeunes qui sortent et qui disent qu'ils ont faim, des jeunes qui sortent et qui disent que, bon, nous avons des diplômes, on ne trouve pas de boulot, nous finissons sur des millions. Des jeunes qui veulent véritablement qu'il y ait donc l'alternance et le changement dans leur pays, ces jeunes la sortent et puis c'est sans se réjouir que ça fait flop. Non, je crois qu'un gouvernement responsable devait quand même se poser mille et une questions. Regardez un peu la tranche d'âge de la dernière fois. Tous ces jeunes-là qui sont descendus dans les rues et tout ça, ils se disent, certains disent que oui, bon, il y a certains mecs qui ont fait des vidéos qui disent qu'ils ont été déçus par le chef de l'État togolais parce qu'ils estimaient que il est venu au pouvoir à l'âge de très jeune, 39 ans à l'époque, même si c'est également, si on doit redire, bon, il y a encore écrit beaucoup là-dessus, mais officiellement, il a 39 ans quand il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il en a 59, le 6 juin dernier, mais beaucoup estimaient que, bon, quand il est, comme c'était un jeune à l'époque, il devait au moins s'occuper donc de la jeunesse. Mais aujourd'hui, ils sont déçus. Et certains le disent ouvertement. Donc, lorsque vous voyez tout cela, ceux qui étaient dans la rue et tout ça, regardez un peu la moyenne d'âge, vous comprendrez aujourd'hui qu'entre ceux qui espéraient, qui avaient l'expérience et tout ça, aujourd'hui, ils sont déçus. Donc, aujourd'hui, le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Maintenant, lorsque vous prenez, lorsque nous parlons donc de la chronique, je crois que le journal est sur le marché, regardez un peu tout ce qui a été miroité pendant 20 ans aux jeunes, à la jeunesse. Regardez les 20 plus de forts. Regardez toutes ces promesses qu'il a faites plus tard. Où il met toujours la jeunesse au centre. Et c'était son papa qui avait commencé. Il n'y a jamais donc il y a de plus grand sacrifice donc il s'agit de la jeunesse. Après, lorsque Fonyasimbe arrive, il a dit donc donnons à la jeunesse togolaise les moyens pour éclore ce talent. Donc les jeunes avaient cru. Donc aujourd'hui, c'est 20 ans, c'est comme s'il a perdu 20 années pour la jeunesse aujourd'hui. C'est si on vous dit que c'est des jeunes comme comment vous l'appelez ces jeunes influenceurs là, les Agabomba, les Jamie et tout ça,
les Raoul
qui allaient peut-être aussi les TikTok demander aux Togolais de sortir, ils sont sortis. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est consommé quoi. D'accord. Et là nous avons cité peut-être une déclaration des partis politiques qui dit que c'est un truc mémorable et c'est symptomatique donc des frustrations accumulées et ça rejoint également ce que on dit donc les évêques. Vous voyez que les discours s'enchaînent, mais véritablement disent presque la même chose. C'est-à-dire la quintessence, l'essence même des déclarations, c'est presque la même chose. Voyez-vous donc que c'est cela et puis bon, nous avons fini avec
Sylvestre, voilà. Je sais qu'Abbas et Justin ont beaucoup de choses à dire également sur ce sujet, mais je vais vous prier quand même de qu'on revienne là-dessus déjà après la réaction des auditeurs. Vous allez revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est bien sûr sur ces numéros que vous pouvez réagir. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Tonton Vie de Clicamé.
Ah, Tonton Vie de Clicamé. Vous êtes à l'antenne, allez-y.
Merci, salut au plateau, salut aux DP qui sont tout autour de vous. Je remercie Justin qui a planté les deux corps en parlant des retraités de la TDE et au niveau ICO. Mais au niveau macro, le problème est plus important que cela. Parce que quand vous faites une étude de façon générale, la première des choses, c'est de savoir combien de retraités le Togo regorge sur les 9 millions. Quelle est leur pension? Qu'est-ce que la Caisse nationale de sécurité sociale paye pour eux? Qu'est-ce que la Caisse de retraite paye pour ceux qui sont à la fonction publique? Ils sont très misérables. Certains n'arrivent même pas à payer leur loyer. Donc, je vous exhorte, monsieur le DP, de faire une étude, de faire une investigation, de nous ressortir tous ces Togolais, vos papas, vos grands-pères qui sont dans cette situation très désastreuse. Je vous remercie, Pascal.
Merci beaucoup, Tonton Vie, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la Presse. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est...
Je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. Votre nom, c'est...
Adioda. Vraiment.
Adioda, vous nous appelez de quel quartier?
Quartier de... Adakpami.
Adakpami, allez-y.
D'abord, je vous salue beaucoup, je vous encourage à continuer. Parce que c'est pareil. Je ne veux pas être sûr à l'école, mais il faut toujours le comprendre.
Mon cher Abia Adjaouda, nous avons vraiment de difficultés à vous écouter. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est votre téléphone, mais toutefois, je vous demanderai alors de rentrer en ligne, mais le temps de recevoir notre auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Oui. D'accord, allez-y.
Salut le plateau.
Ah, le plateau aussi vous salue.
Oui, je jette des fleurs à nos forces de l'ordre pour avoir maîtrisé ces djihadistes-là, ces individus malveillants pour qui rentrent pour détruire le pays. Bon, voilà, c'est là-bas qu'on les veut, on veut les voir. Les manifestants n'ont pas d'armes. On affronte ceux qui ont les armes. L'armée doit affronter ceux qui ont les armes. Et quand il y a manifestation, ils doivent sortir pour couvrir, pour voir si ce que la population réclame. D'ampleur. Mais quand on a l'esprit de répression, on n'aura pas le vrai résultat. Hein? Quand on veut évaluer les enfants, on évalue tout le monde. On n'évalue pas un enfant parce que le maître juge qu'il n'est pas bon, il ne va pas sortir, il ne veut pas aller à l'examen, non. On évalue tout le monde. Mais s'il faut évaluer seulement les excellents, vous ne faites pas une évaluation. Et vous voyez. Mais malgré la peur, c'est la première fois que le M2 a été barricadé. Et vous voyez, c'est la première fois qu'on constate ça. Donc ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Une réussite parfaite. Et c'est en cours. Et vous-même qui êtes au plateau là-bas, c'est vrai, vous n'allez pas le dire. Vous avez droit de réserve. Mais ceux qui meurent de faim, tout ça là, laissez-les s'exprimer. Vous les laissez s'exprimer. Sinon, la grande majorité n'est pas d'accord de cette gouvernance. Comme là, quelqu'un l'a dit, les limites du Togo sont actuellement le nord par l'ancien président de la République, cet ancien président de la République, le sud par le nouveau président de la République, à l'est par la galère et à l'ouest par la prison. Vous voulez rester dans ce pays-là comme ça? Non, mais changement. Bonne émission.
Merci beaucoup, mon cher ami Nyamavo. Nyamavo, et nous laissons quand même tout le monde s'exprimer dans cette émission. C'est une plateforme où chacun s'exprime et dit justement ce qu'il peut dire, mais surtout dans la règle de l'art, c'est très important. Allô?
Papa, bonjour.
Oui, Basile, bonjour. Comment vous allez?
Absolument, comme d'habitude.
D'accord. Allez-y, vous êtes à l'antenne.
Ouais, ces jeunes sont sortis. Et puis, du coup, moi, je ne comprends pas si notre pays, c'est au niveau du président du conseil des ministres. Là. Est-ce que diriger la fait porter, depuis 20 ans, il nous dirige avec les graissements dedans. C'est les graissements dedans, les gémissements, depuis 20 ans. Quand on était là en train de croire que, comme on crie tous les jours, ça va être un peu amoindri, mais maintenant, il cause la vision, il fait hausser le prix du kilowattheure. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à son niveau, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais on ne lui demande pas les jours de la tête. Il n'a qu'à faire comme les autres dans les autres pays, les gens respirent un peu. C'est tout ce que nous on cherche. Mais déjà que je lui faut chercher à sourire, à faire saigner la population. Moi, je ne sais pas ce qu'il cherche en représentant. Mais on ne sait plus comment il faut lui parler, hein, franchement.
Ah. D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Je vous félicite pour l'émission, la façon dont vous marchez sur les œufs. C'est Cossité qui nous écrit le message. Mon cher ami Cossité, nous ne marchons pas sur les œufs. Nous disons ce que nous pouvons dire et nous le disons également dans la règle de l'art. C'est très important. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, monsieur le canal FM.
Ah, ce n'est pas Papa Sibiti. Allô, c'est votre nom? Oui, votre nom?
Oui, c'est Natema.
Ah, c'est Natema.
Oui.
Oui, Natema, allez-y.
Moi, mon intervention, c'est pour dire que quand quelqu'un fait un mandat, il parle, un mandat, deux mandats, il parle là, il n'est pas président. Quelqu'un qui vient, il fait 20 ans. Et il, tout autour de lui, dans le monde entier, qui fait ça? Mais quand même, il faut qu'on se donne un respect. Quand les gens crient, on fait des arrestations, ça donne quoi? Plutôt, quand quelqu'un fait ça là, c'est lui qui n'aime pas le Togo. Celui qui fait ça, il n'aime pas le Togo. Ceux qui sont en train de soutenir ça là, ils n'aiment pas le Togo. Sincèrement, si le pouvoir tournait, aujourd'hui il est chez Nathéma, le lendemain il est chez Y, ainsi de suite là, est-ce que ça ne serait pas succulent comme ça? Ce qui est beau, ce qui est magnifique, on ne veut pas aller vers là. Pourquoi? On fait souffrir, on fait saigner la population cotise, la population fait tout. On dit, oh, mais pourquoi? Mais est-ce que le président, il ne fait pas ce faire, non? Il est sauté, il dit, ça pour dire qu'on a changé la constitution. Ça fait quoi? Même si ça, là, ça c'est quoi? Oh, mais frère, soyons sérieux envers vous-même. Soyons sérieux.
Merci beaucoup, Natema, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Vous parlez des terroristes sur notre sol. Oui, mais je me demande si nos autorités militaires peuvent nous dire d'où viennent ces milliers de passants qui traversent tous les jours la frontière ouest du Togo pour aller vers l'est. Sincèrement, c'est des centaines de jeunes avec Nassan Aoussa qui traversent tous les jours les babelés de Kodjoviakopé et on ne sait où ils vont. c'est tellement suspect et je crains pour le Togo et peut-être même pour le Bénin. C'est Innocent qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 33 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô.
Bonjour, mon directeur.
Ah, voilà, et enfin, il est là. C'est Papa Sibiti, bonjour.
Je suis là, c'est les lignes qui sont difficiles.
Tout à fait, j'ai tout
bonjour
compris.
Bonjour, sur le plateau. Bonjour, Papa Sibiti. En me considérant comme sage, parce que j'ai tout vu, j'ai eu cette chance. Le site, le progrès, l'ICPN, Gibanto, vous voyez, ce que je voudrais dire, que notre président de la République, moi, je l'appellerai toujours président de la République, il écoute tout ce que les gens disent. Ça ne lui coûte rien d'agir. Il écoute la vie chère, comment les fonctionnaires, les retraités, vous, les journalistes là-bas, si ça va, c'est difficile à faire. Il le fait, mais comme les gens continuent, il ne faut pas. Moi, je ne parle pas des conseillers, je sais quoi. Il est le seul conseiller, il est le seul maître. Il écoute ce que la population dit et nous rendre satisfaction. Et il y aura la paix. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Et Papa Sibiti, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Mais nous avons des réactions, hein, beaucoup de réactions sur notre numéro WhatsApp. Bonjour, Canal FM. Moi, j'aimerais savoir si le respect de la loi concerne seulement les pauvres citoyens et que nos dirigeants autres sont exclus. Comment la tête ne respecte pas la loi et les membres, eux, vont la respecter? C'est dommage pour nous au Togo. Que Dieu nous vienne au secours. Merci, c'est M. Bassinouin qui nous écrit également d'autres réactions, hein, bien sûr, sur notre numéro au WhatsApp. Et je salue le plateau. Je dis simplement, si le régime là ne quitte par le pouvoir, soit ils vont nous tuer tous et garder leur pouce, soit ils ont changé leur gouvernance pour l'intérêt général de la population. C'est bien sûr un auditeur qui nous a écrit bien sûr ce message. C'est Prénom, bien sûr, Prénom, puisque je cherchais le nom. C'est Prénom qui a écrit ce message, cher confrère. Nous revenons en plateau pour un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce mercredi. Sylvestre, vous avez suivi les uns les autres dans leur réaction, puisque c'est le principe de l'émission. Votre réaction?
Non, écoutez, il y a un Togolais qui parlait donc de des Aoussa qui viennent qui viennent très souvent, qui traversent très
c'est,
souvent.
C'est Innocent.
Innocent. Oui, je crois qu'il faudrait que dans cette affaire qu'on puisse raison garder. Il ne faudrait pas qu'il y ait donc une stigmatisation donc d'une communauté donnée dans cette affaire donc de terrorisme. Lorsque vous voyez au niveau de la frontière vers Dijolé, le feu tricolore de Dijolé, hein, la frontière qui est là, il y a beaucoup. Vous verrez que le soir, vous verrez qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont là. Vous vous posez mille et une questions. Toutes ces personnes-là, ils sont où? En réalité, il y a beaucoup qui ont construit au niveau donc de la frontière, c'est-à-dire au niveau d'Aflaou. Beaucoup qui ont construit là, beaucoup d'Aoussa qui sont là, et qui le matin viennent, passent par là pour venir peut-être vendre au grand marché, et le soir ils retournent à leur domicile. Mais comme ils ne peuvent pas traverser avec les véhicules, beaucoup laissent leurs véhicules là et rentrent à pied, donc au niveau de la frontière, au niveau d'Aflaou. Donc il y a beaucoup qui viennent travailler à Sigamé, vendre, tout ça. Là, ils ont des boutiques au grand marché et tout ça, et retourne le soir. Maintenant, on ne peut pas dire parce qu'il y a des... puisqu'il a donné le nom de la communauté Aoussa, et je dis, attention, attention, il ne faudrait pas qu'on fasse une stigmatisation.
Tout à fait.
Les terroristes, on peut en trouver donc dans toutes les ethnies au Togo, ce sont quand même des gens, des bandits de grand chemin qui viennent et qui attaquent donc le pays et le pays riposte. Donc il ne faut pas dire que telle communauté ou telle communauté sont, puisque certains l'ont dit une fois en parlant donc des peuls. Maintenant, cette fois-ci, on parle donc des Aoussa. Attention, D'accord. Il faudrait pas qu'il y ait...
Merci d'avoir fait justement cette précision, puisque c'est très important. Hein, on ne va pas stigmatiser une communauté donnée. Oui, Abbas, votre réaction...
C'est pour insister là-dessus. Parce que...
Mais Abbas, moi, j'aurais voulu, puisque déjà, Sylvestre en a déjà parlé. Oui, moi, je voudrais quand même que tu t'intéresses plus à cette question alors des manifestations du 6 juin dernier.
C'est déjà passé.
D'accord, c'est bon. Ok, vous voulez insister maintenant sur ce que Sylvestre a dit.
Je voulais insister pour dire que quand tu traverses la frontière, tu rentres là-bas, la communauté que tu vois, c'est beaucoup les Haoussa. Ceux-là qui sortent pour venir faire le marché ici. C'est pour cela qu'il faut faire attention, très attention, à ne pas faire de la civilisation sur et des personnes que vous ne connaissez pas. Je crois que les autorités savent que ces personnes traversent les frontières à tout moment. Et c'est là, on sait que nos frontières sont poreuses, mais de telles stigmatisations, ça risque d'amener beaucoup de problèmes ici.
D'accord.
Donc je vais féliciter nos forces de défense et de sécurité qui nous avaient un bon travail et qui défendent le territoire pour que aucun centime de notre territoire ne soit pris.
Merci, Justin. Par rapport aux manifestations lors du 6 juin,
je pense que tout apparaît progressivement comme quoi il y a une justice aujourd'hui dans notre pays qui soutient un pouvoir de dictature, un pouvoir qui se donne le loisir d'arrêter toute voix dissonante, ce que moi je n'arrive pas à comprendre. On a vu ces jeunes-là dans les manifestations de la fois dernière qui n'ont pas vandalisé quelques boutiques que ce soit. Déjà la nuit, on les a suivis pour voir dans le groupe même. Et certains même qui recommandent aux jeunes de ne pas casser quoi que ce soit. Et si le lendemain, on a pu bastonner les gens, lancer des gaz lacrymogènes dans les maisons, se comporter dans une logique de bestialité, et après on arrête les gens, et le procureur sort pour parler de l'atteinte à la sécurité de l'État, je m'interroge énormément. Sauf que le constat qui se dégage aujourd'hui est que vous attendez sur les réseaux sociaux, les gens n'ont plus peur de la prison. Certains sont déjà sortis, ils sont libérés, mais ils appellent encore à manifester à partir du 26 prochain. Papa Siviti a dit tout. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, qu'il se nomme aujourd'hui le PC ou président du Conseil, c'est lui président de la République. C'est lui qui a tout le pouvoir. Le dernier mot revient à lui. Si on pense qu'à la lueur vont les choses actuellement, c'est pour brandir la menace d'arrestation, de quoi que ce soit. Moi, je pense que, vu des analyses, les Togolais en ont marre. Un régime qui est là 20 ans après, et tout ce qu'on a promis, rien. Et on a dilapidé, la justice est là, ceux-là qui ont volé, cette minorité-là qui n'a pas su avoir en son sein ce qu'on appelle le patriotisme. Et cette minorité n'est pas inquiétée. Et c'est les jeunes-là qui sont sortis, qu'on a embastillé aujourd'hui pour mettre en prison, pour faire peur aux autres, pour dire que voilà le message vous est servi, prochainement c'est à votre tour. Je pense que c'est un faux débat, il revient également aux autorités. Et ça m'amène peut-être pour conclure, pour interpeller les corps qui sont quand même constitués dans notre République, les universitaires en premier lieu. Je me rappelle également qu'à un moment donné, le barreau s'est prononcé, pour ne pas dire même le corps judiciaire, parce qu'à un moment donné, c'est la République qui est en danger.
D'accord, merci Justin pour votre intervention et votre participation à ce débat. Merci d'être passé alors dans cette émission. Et je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et vous collaborez avec beaucoup de journaux. Merci d'être passé. Merci à Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'être passé dans cette émission. Abbas Issaka, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez bien sûr appelé pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.